إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Nous en sommes arrivés à la fin de Sourate Al-Baqarah, le verset 284, 285 et 286, qui sont les trois derniers versets de Sourate Al-Baqarah.
A'udhu billahi al-sami' al-alim min ash-shaytan ar-rajim. Lillahi ma fi al-samawati wa ma fi al-ard. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
Allah tabaraka wa ta'ala, dans ces derniers versets de Sourate Al-Baqarah, verset 284, Allah ta'ala dit dans le sens de sa parole: tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte auprès de votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite, ou car Allah est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, nous rappelle sur le fait que tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre appartient à Allah seul. C'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur dispense ses ressources et qui dispose d'eux dans leurs intérêts mondains et religieux. Ils sont tous ses esclaves, ils sont tous sa propriété, subhanahu wa ta'ala. Car ces créatures ne possèdent pour eux-mêmes ni pouvoir de donner avantage, ni celui de nuire, ni même de créer, ni de faire mourir, ou bien même de faire ressusciter. Et Allah est capable de toutes choses, car rien ne s'oppose à lui. Bien plus, toute la création est soumise à son pouvoir, à sa volonté, à sa disposition et à sa rétribution, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ici dit que vous révéliez donc vos pensées ou bien que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. On va voir ce verset plus tard, inshallah, quand on expliquera le dernier verset. Ou ce passage du verset quand on expliquera le dernier verset, inshallah. Puis, dans le verset 285, Allah Ta'ala dit dans le sens, le messager croit pleinement à ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ensemble, ils croient en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, sans faire aucune distinction entre ces messagers. Ils affirment, nous avons entendu et nous avons obéi, pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire son retour. Allah Ta'ala parle ici de la foi du messager et des croyants qui ont suivi le messager, ainsi que de leur soumission, de leur obéissance, et en plus de tout cela, du fait qu'ils demandent le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous informe que le messager et que les croyants ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, ce qui implique la foi en tout ce qu'Allah a révélé à travers ses messagers, concernant son être, subhanahu wa ta'ala, son essence, ainsi que ses attributs de perfection et ses caractéristiques de majesté. On y croit d'une façon globale, ainsi que d'une façon détaillée, c'est-à-dire tout ce qui a été rapporté de manière certaine, nous y croyons. Cette foi implique aussi le fait de purifier Allah tabaraka wa ta'ala et de le sanctifier contre toute ressemblance ou bien contre toute assimilation et similitude avec ses créatures. De même que nous éloignons de lui tous les attributs d'imperfection, subhanahu wa ta'ala. Cette foi implique aussi le fait de croire aux anges mentionnés par les livres sacrés d'une façon globale et détaillée. De croire aux messagers, de croire aux livres révélés, c'est-à-dire tout ce que les messagers ont rapporté et tout ce que les livres sacrés contiennent comme récits, directives et interdits. Renier certains de ces messagers, c'est comme si on reniait tous les messagers. Cela revient à renier Allah subhanahu wa ta'ala et à mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala qui les a envoyés. Aussi, quand Allah ta'ala dit ici, nous ne faisons pas de distinction entre ces messagers. Cela ne veut pas dire que certains messagers ne sont pas meilleurs que d'autres. On comprend les versets du Coran avec d'autres versets. Allah ta'ala dit, tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Voici les messagers que nous avons préférés certains sur d'autres. Donc entre les messagers, il y en a qui ont une plus grande valeur et un plus haut degré auprès d'Allah que d'autres. Et l'imam des messagers, le meilleur des messagers, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le sens de ce verset, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers, c'est-à-dire dans la foi. Nous croyons en eux tous. Nous croyons dans tous ces messagers. Et nous ne faisons pas de distinction, c'est-à-dire on ne choisit pas de croire en certains d'entre eux et de rejeter certains messagers envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là. Il faut savoir que dans la mesure où l'homme est soumis à des négligences vis-à-vis des droits d'Allah tabarak wa ta'ala et qu'il a besoin du pardon d'Allah, alors ils disent « Ghufranaka Rabbana »« Pardonne-nous notre Seigneur ». C'est-à-dire, nous te demandons pardon pour les péchés et les négligences qui ont pu émaner de nous, et nous te demandons d'effacer ce qui a pu être la cause de nous pousser au défaut et à la faute. Puis dans le verset 286, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le sens, Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas à rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon. Fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a révélé dans le verset 284 que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte auprès de votre Seigneur. Les musulmans en furent très peinés, en pensant qu'ils auront à rendre des comptes pour leurs intentions et pour leurs pensées intimes enfouies au tréfonds de leur cœur. Allah tabaraka wa ta'ala les informa donc à travers ce verset qu'il n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens, c'est-à-dire qu'il ne lui imposera rien de pénible. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Il ne vous a pas imposé dans votre religion de gêne, ce qui comporte une lourdeur et une gêne. Certes, le principe des directives et des interdits ne réside pas dans la gêne pour les âmes, car ces directives et ces interdits sont une nourriture pour ces âmes, un remède pour les corps et un régime contre les nuisances. En effet, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala donne des ordres à ses serviteurs, c'est par miséricorde et bienfaisance pour eux. Et dans le cas où il y a des excuses et des justifications qui nécessitent une facilitation ou un allègement dans certaines obligations religieuses, cette facilitation et cet allègement interviennent automatiquement, comme c'est le cas pour le malade, comme c'est le cas pour le voyageur ou d'autres personnes. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe que toute âme bénéficiera du bien qu'elle aura accompli et sera jugée pour le mal qu'elle aura commis. Aucune âme ne sera jugée pour les œuvres d'une autre. En outre, le bien sera écrit pour un homme dès qu'il en formulera l'intention dans son cœur, alors que le mal ne lui sera écrit qu'une fois qu'il l'aura commis. Ensuite, Allah Ta'ala parle de l'invocation des croyants en ce sens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a répondu à cette invocation des croyants, « Seigneur, ne nous tiens pas à rigueur de nos omissions et de nos erreurs en disant, j'ai exaucé votre invocation. » La différence entre l'oubli et l'omission et l'erreur est que l'omission consiste à négliger et à oublier de faire une chose qui nous est ordonnée, alors que l'erreur consiste à envisager de faire une chose qu'il nous est permis d'envisager, puis de commettre ce qui n'est pas permis, et ceci sans intention préalable, par erreur. Allah tabaraka wa ta'ala a pardonné ces deux choses à cette communauté par miséricorde et compassion pour elle. Il en est ainsi de celui qui prie dans un vêtement souillé et qu'il oublie qu'il y avait une souillure sur son vêtement ou sur son corps. Puis il s'en souvient après avoir prié. Sa prière est valide. Ou la personne qui parle au cours de la salat par oubli. Dès qu'il s'en rappelle, il arrête de parler. Sa salat est valide. La personne qui rompt le jeûne par oubli ou bien qui transgresse un des interdits de la sacralisation quand il est en pèlerinage par oubli, tant que ce n'est pas un acte qui comporte l'annulation complète de ce pèlerinage. Donc tout ceci, Allah tabaraka wa ta'ala l'a pardonné. Il en est ainsi de celui qui, par erreur, fait du mal à quelqu'un, fait perdre un bien, ou même qui est la cause de la mort d'une personne, par erreur, sans en être la cause directe, sans omission de sa part, ou sans transgression de sa part. Tout ceci est une miséricorde de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah ta'ala a répondu, j'ai exaucé votre invocation. C'est-à-dire qu'il a exaucé à l'invocation des croyants qui ont demandé qu'Allah ne nous tienne pas rigueur de ce que l'on a fait par oubli ou par erreur. Par oubli ou par erreur. Puis, dans sa parole, Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves, c'est-à-dire les obligations pénibles que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé cela, car il a allégé les choses pour cette communauté en termes de purification rituelle, en termes d'actes d'adoration, ce qu'il n'a pas allégé pour les communautés auparavant. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Il a exaucé aussi cela, subhanahu wa ta'ala. Donc en résumé, tout ce qu'Allah nous a imposé en islam, c'est qu'on est capable de le faire. Toutes les obligations, c'est qu'on est capable de les pratiquer. Tous les interdits, c'est qu'on est capable de les délaisser. Et dans les obligations, quand il y a des excuses valables, même ces obligations, il y a des allègements dedans. Celui qui ne peut pas prier debout,
il prie assis. Celui qui ne peut pas prier assis, il prie allongé. Celui qui ne peut pas toucher l'eau pour les ablutions, ça lui nuit, il fait le tayammum, il fait les ablutions sèches, etc. Celui qui est en voyage, il a la permission de rompre son jeûne et de rattraper à d'autres jours. Il lui est permis, et c'est même une sunna, de raccourcir les prières de 4 rak'at en 2. Il lui est permis de réunir les prières du jour ensemble, c'est-à-dire le dhuhr et l'asr, et le maghrib et l'isha, les prières de nuit ensemble. Donc, tous ces allégements en islam, c'est-à-dire que déjà les obligations sont à notre portée. Et en plus de ça, Allah Ta'ala a donné des allégements dans des situations précises, par miséricorde pour cette communauté. Donc, beaucoup de gens comprennent très mal ce verset. Allah n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tu lui dis, délaisse le haram, il dit, Allah n'impose rien à une âme qui soit au-dessus de ses moyens. Ce verset, il est contre toi, il n'est pas pour toi. Ce verset, il veut dire, si Allah il t'a interdit cette chose, c'est que tu es capable de le délaisser. Et non pas dans le sens que toi, tu le comprends, Allah n'impose pas une âme au-dessus de ce qu'elle est capable. Je ne suis pas capable de délaisser cet interdit. Non, tu es capable. Si tu n'étais pas capable, Allah ne l'aurait pas rendu interdit à l'humanité entière. Tu es capable. Tu manques juste de volonté. Arme-toi d'une volonté ferme et demande l'aide et l'assistance d'Allah. Bi-idhnillah, tu vas délaisser tous ces interdits. Et tu vas t'attacher aux obligations. La preuve, l'être humain fait des choses beaucoup plus compliquées dans sa vie de tous les jours que certaines obligations de l'islam. Mais comme c'est pour des choses pour lesquelles il a donné de la valeur, l'argent ou bien ses passions, alors il ne compte pas. Quand il s'agit de ses passions, de ce qu'il aime, il ne compte pas. Il est même prêt à risquer sa vie. Mais quand il s'agit de sauver son âme de l'enfer, quand il s'agit d'adorer son Seigneur, quand il s'agit de se soumettre à lui, alors tu le vois, il traîne la patte. Qu'Allah nous guide. Puis, vers la fin du verset, quand les croyants, quand Allah Ta'ala parle de la dua des croyants, quand ils disent « Tu es notre maître », c'est-à-dire notre Seigneur, notre souverain et notre Dieu, dont la tutelle sur nous n'a jamais cessé depuis qu'il nous a créés et conçus. Sa faveur à notre égard est permanente. Il nous a fait aussi la grande faveur et l'immense don de l'islam, dont toutes les faveurs dépendent. Aussi, nous te demandons, ô notre maître et Seigneur, de compléter cette faveur en nous accordant la victoire sur les mécréants qui t'ont renié et qui ont renié tes messagers, qui ont combattu les croyants en ta religion, qui ont combattu les croyants en ta religion et qui ont rejeté tes préceptes. Donne-nous la victoire sur eux par l'argument, la science et la parole et par les preuves, de même que nous te demandons la victoire sur eux par les armes et la force. Établis-nous sur la terre et avilis-les, et donne-nous la foi et les œuvres avec lesquelles s'obtient cette victoire.
Cette victoire, Allah Ta'ala l'a promise à ceux qui concrétisent le tawhid, qui concrétisent la foi, qui sont constants dans leur salat, qui donnent la zakat, qui conseillent le bien, qui déconseillent le blâmable. Allah Ta'ala a promis de les établir sur terre. Allah a promis de donner sa victoire et son aide à ceux qui aident sa religion. Certes, Allah donnera assistance à ceux qui donnent assistance à sa religion.
Et c'est comme cela que l'on a fini par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala l'explication de sourate al-Baqarah. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum.